votre passion du moment, les pizzas au feu de bois. Margarita, pepperoni, truffe. Heureusement qu'avec l'abonnement Deliveroo Plus, les frais de livraison sont offerts. Comme ça, vous pouvez toutes les goûter, même les calzones. Si, si, ça compte aussi comme une pizza. En ce moment, l'abonnement Deliveroo Plus est à seulement 90 centimes d'euros par mois pendant 6 mois. Deliveroo ? Ah, là on est bien. Offre réservée aux clients n'ayant jamais été abonnés à Deliveroo Plus, à activer jusqu'au 13 octobre 2024. Conditions de l'offre sur deliveroo.fr/fr/terms et des abonnements sur le site Deliveroo. Pour votre santé, évitez de grignoter.
LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
En fait, un beaux aïeux, vraiment c'est un mot vraiment très costaud et très puissant. Un beaux aïeux, c'est un homme qui se lève comme ça, il abandonne tout. Lui-même, il ne sait pas dans quoi il s'embarque. Donc il est comme le vent. C'est ça le beaux aïeux, il est comme le vent. Il ne connaît pas où il va s'arrêter. Il marche seulement, il marche seulement. Vraiment porter le titre de beaux aïeux, c'est un honneur. On vit des choses vraiment hors commun. On vit des choses que même dans ton pire cauchemar tu ne pouvais pas imaginer. Et jusqu'à là, on ne perd pas espoir. On garde la tête, on a le mindset, on sait que ce qui est sûr, ça va aller. En fait, on ne souhaite pas devenir beaux aïeux. Ce sont des situations et des circonstances qui le font. Sinon, un être humain ne peut pas se lever le matin à l'entrée dans le feu.
Jeunesse africaine en exil, épisode 1. Quitter les siens, conjurer le destin. Raphaël Kraft, David Jakuboviez.
Fini de prier. Il faut que maintenant je fais les trucs. Je pétris les pattes.
Ben vous allez me montrer.
C'est comme ça.
Adidja,
qu'on fait.
Vendeuse de beignets, quartier de Makea à Douala, Cameroun.
Pour arranger la rue.
C'est quel genre de quartier, Makea?
C'est un quartier habitant. Prends ça, tu veux. C'est un quartier que moi je suis né là. Je ne peux même pas vivre ailleurs. Même comme c'est un quartier délinquant. Mais j'aime comme ça. C'est mon quartier natal, donc là où je suis né.
Quel âge avez-vous, Adidja?
Moi, je suis né normalement à 67. Calcule alors. 57 ans. Je suis ton aîné. Loin même. Ma mère est de Limbela. Elle est une fille de ce village-là. Ma mère qui m'a mis au monde.
Et votre père?
Et mon père est du Nigeria. J'ai aimé mon père beaucoup. Il est mort quand j'avais 13 ans. Bon, après la séparation du mariage de ma mère et mon père m'a récupéré. J'avais 7 ans. Il m'a ramené chez sa grande sœur ici. C'est elle qui m'a élevé. Elle m'a gardé comme si c'est elle qui m'a accouché.
Est-ce que vous êtes allé à l'école lorsque vous étiez chez votre tante?
Non, je n'étais pas à l'école.
Qu'est-ce que vous faisiez de vos journées donc?
J'ai commencé à faire le beignet moi-même parce que c'est ça qu'on m'avait élevé avec. On me montrait. Maintenant, c'est ça que j'ai pris comme métier. C'est ça qui m'a aidé aussi. Assois-toi ici.
Qu'est-ce que vous faites, Adidja?
La farine. Que je t'aime.
Que s'est-il passé ensuite? Vous avez eu un premier enfant? À quel âge?
Ça là, je ne peux même pas remarquer. J'ai eu le premier enfant, je me suis mariée. Mais le mariage n'a pas été bien. Il m'a dérangé. Je suis rentrée à la maison. Je n'étais pas bien là-bas.
Pourquoi?
Il ne me gardait pas. Il ne s'occupait pas de moi.
Il était violent avec vous?
Oui, tellement. Pour ne pas me donner les maux de tête, je préfère abandonner l'homme. Je ne veux plus l'homme. J'ai refusé l'homme comme ça. Étant jeune, jusqu'à j'ai vieilli comme ça, sans homme.
En fait, les hommes ont abandonné vos enfants?
Oui, ils ont abandonné. On va faire comment? Et dans l'acte de mes enfants, je préfère mettre le nom de mes oncles ou moi-même mon nom. Oui. L'enfant, c'est la mère, puisque c'est toi qui sens ta douleur quand tu es sur la table là, le jour là. C'est ça.
Vos accouchements se sont tous bien passés?
Bien. Je n'ai pas de problème. J'accouche bien. Parce que je travaille, je fais le beignet jusqu'à le dernier jour.
Ah oui?
Oui. C'est tout. Et pétris ça maintenant, parce que le temps pas. Faut que ça gonfle. Faut que ça gonfle.
Donc, trois filles.
Oui.
Et combien de fils vous avez de vous?
Trois. Trois filles. Soulé, Salissou, Amadou.
Quel âge ont-ils?
Et Amadou, 14 ans et 15 ans.
Et l'aîné?
26 ans. Ce sont eux qui sont en Europe, non? Les trois garçons-là, qui sont partis.
Moumini Diallo, vous êtes citoyen guinéen, vous êtes exilé en France. Ça veut dire quoi, Moumini?
Bah, Moumini, bon, en arabe, ça se prononce Moumin, ça veut dire un croyant. Donc, voilà, c'est l'appellation qu'on donne aux plus nobles des croyants. En Afrique, parfois, ils disent, on donne ça aux orphelins de naissance.
C'était un prénom prémonitoire?
Oui, sûrement, parce que vu ce qui s'est passé après, la perte de mon père et puis le décès aussi de ma mère quand j'avais 10 ans, donc ouais, je pense que c'était prémonitoire.
Et que se passe-t-il à la mort de votre père?
Alors, au décès de mon père, la famille, traditionnellement, ils exigent que la femme se remarie et de préférence dans la famille, du côté du père, soit avec le frère de mon père ou en tout cas des cousins, en tout cas des proches parents.
On appelle ça le lévira.
Voilà, donc ma mère, elle n'était pas prête à se remarier. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, ils ont décidé que vu qu'elle ne voulait pas se remarier, donc elle ne pouvait pas élever un enfant en bas âge. Vu en plus et que c'était un garçon, il fallait qu'on l'amène chez quelqu'un d'autre, dans la famille du côté du père. Et donc du coup, c'est dans ces circonstances-là que j'ai été envoyé chez mon oncle paternel. Et du coup, bah voilà, je suis arrivé là-bas à 3 ans, en grandissant. Voilà, je le considérais comme mon père. Mais sauf que lui aussi, il était polygame. Donc c'était un environnement un peu agité aussi, entre co-épouses et les enfants aussi. Donc il y avait beaucoup de rivalité. Et grandissant dans ces conditions-là, tu commences à te rendre vraiment compte que voilà, t'es pas un enfant de la famille. Parce que en fait, chaque femme essayait de voilà d'avoir le plus de privilèges pour ses enfants. Et donc du coup, bah toi, ta personne, pour se battre pour que tu aies plus de privilèges en fait.
Est-ce que au contraire de vos frères et sœurs par alliance, vous deviez faire des tâches ménagères, vous étiez dans une situation d'exploitation?
Exactement. Et voilà, moi, je refusais de faire ces tâches-là. Et du coup, c'est ce qui faisait que je passais la plupart du temps dehors. Parce que voilà, si je reviens à la maison, on m'oblige voilà de balayer ou voilà d'aider à faire la vaisselle, la lessive parfois. Et pourtant, il y avait une bonne pour faire la vaisselle, aider à faire à manger. Et parfois, on ramenait aussi des gens pour la lessive. Et sauf que moi, on voulait m'imposer ces corvées-là. Et du coup, je le prenais mal. Et d'autant plus que c'est une famille, comme j'ai dit, c'est pas comme si on n'avait pas les moyens dans cette famille. Mon oncle, c'était quelqu'un d'important. Il avait un bon business qui marchait sur place. Alors, c'était un commerçant, import-export. Donc, il était souvent en voyage. Et lui, il savait pas ce qui se passait vraiment à la maison. Et quand il revient, je commence à l'expliquer des choses. Bah, il me dit d'être courageux, qu'il est aussi passé par là, qu'il a grandi. Mais moi, je lui disais, c'était compliqué. Peut-être c'est pas les mêmes époques, c'est pas la même chose. Et du coup, voilà, ça faisait que je pouvais pas rester en famille. Donc, j'étais tout le temps dehors. Voilà, ça m'a amené à faire des mauvaises fréquentations, à commencer à prendre des produits stupéfiants, genre fumer, connaître aussi l'alcool, tout ça, connaître beaucoup de choses qu'un enfant de mon âge ne pouvait pas connaître.
Vous continuiez d'aller à l'école ?
Oui. Oui, je continuais quand même d'aller à l'école. Je continuais, je pense que c'est ça qui m'a sauvé, parce que à force d'y aller, ça m'a empêché quand même de finir, comme certains jeunes. Voilà, finir vraiment à la rue.
Comme on dit chez nous, j'ai été abandonné par tout le monde, mais...
Junior.
Le ghetto m'a récupéré.
17 ans, citoyen camerounais.
La rue m'a donné une autre éducation. La rue m'a appris à devenir homme. La rue m'a rendu... mentalement très mature. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à ce que la rue m'a appris.
Alors la rue au Cameroun, j'ai rencontré une maman à Douala. Elle vient du quartier de Makéa. Votre quartier et le quartier de Makéa, c'est un petit peu des quartiers semblables?
Oui, c'est la même chose.
C'est-à-dire?
Dans tout ce qui est mauvais, drogue, agression, les tueries, les braquages, tout ça. Mais j'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui m'a appris. Bon, c'est un grand frère qui avait la côte au quartier. Et dans la rue, quand tu es avec un grand frère qui a la côte, tu es protégé. Il me prenait sous ses ailes et faisait les petits sales boulots pour lui et tout et tout. Nous sommes devenus ton pied, mon pied. On pouvait plus... s'est séparé parce qu'il me disait toujours tiens bon petit, normalement ta place n'est pas ici.
Je jonglais en fait entre l'école, la rue et puis aussi ma famille, parce que quand mon oncle est là je peux venir en famille, il n'y avait pas de souci.
Moumini Diallo, citoyen guinéen exilé en France.
Et dans la famille, ils ont même commencé à m'accuser de vol. Parce qu'en fait, vu que mon oncle était quelqu'un d'important, on lui confiait de l'argent. Et du coup, parfois, voilà, il y avait de l'argent qui manquait. Et à chaque fois, on essayait de m'accuser de vol. Et du coup, un jour, j'ai vraiment été torturé. Parce que c'était une somme importante qui a été volée. Et chaque femme a dit non, c'est pas mon fils, c'est pas mes enfants. Du coup, chacune était là, vraiment, voilà, sorti le pagne, attaché le pagne et tout. Non, quelle personne ne touchera à mon enfant, parce que mon oncle, lui, son idée, c'était de nous ramener tous pour nous faire peur. Peut-être que, voilà, celui qui a fait le coup, il allait se dénoncer. Et non, après, mais c'est en Afrique, ça se passe comme ça, hein, c'est courant. Donc, tous ceux qui ont grandi dans des familles polygames vous diront, voilà, ça se passe exactement pareil. Et donc, du coup, voilà, mon oncle, il voulait un coupable. Donc, j'étais le seul à qui ça pouvait tomber dessus. Donc, voilà, ça m'est tombé dessus. Et j'ai tout fait pour clamer mon innocence. Mais voilà, ils ont dit non, c'est lui, il faut le torturer, il dira où il a mis l'argent ou avec qui il l'a fait. Et voilà, c'est comme ça, on m'a amené dans un commissariat. Vu que les militaires sont corrompus, donc on leur donne un billet et puis voilà, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils cherchent pas à savoir si c'est un enfant ou un adulte, peu importe la personne qu'on leur amène, bah, et ils font leur travail. Voilà, c'est des choses que j'essaye de pas trop me souvenir parce que je me dis, ça réveille quelques mauvais souvenirs. C'était la fois où c'était parti vraiment trop trop loin. C'est à partir de ce jour-là, voilà, j'ai décidé vraiment de partir.
J'ai une enfance assez mouvementée.
Mamadou Diallo, citoyen guinéen, étudiant à Châlons-en-Champagne.
Et je suis à l'issue d'une famille nombreuse, polygame, avec un père de famille qu'on appelle chez nous Khalif. C'est le Khalif du village, c'est le chef religieux. Il enseigne le Coran. Il a beaucoup d'élèves coraniques, du coup. Du coup, c'est dans ça que moi j'ai grandi. J'ai appris le Coran. Et je suis allé à l'école primaire aussi. On avait un beau maître, il nous a bien formés et on a eu l'examen d'entrée au collège. Et c'est à partir de là qu'on m'a signifié qu'il fallait arrêter l'école. Donc parce qu'il fallait transférer dans une autre ville.
Que voulez-vous dire, on vous a signifié qu'il fallait arrêter l'école? Qui est-ce qui vous a dit ça?
Bah, c'est mon père. Hein. Ouais. Bah, les mots qui revenaient souvent, à partir du moment où tu sais lire et écrire, donc c'est bien. Donc il n'y a plus besoin de continuer. C'est maintenant que je comprends. Bah, fallait rester parce qu'il avait vraiment envie de me former et que je reste à côté de lui. Que je sois peut-être un calife un jour, on ne sait jamais. Parce que il y a une sorte de succession générationnelle. Lui, il a succédé à son père. Et donc il fallait qu'un de ses fils devienne comme lui. Et ainsi de suite. Mais c'était impossible. Non, fallait pas le faire. Donc c'est à partir de là que tout a basculé. Il fallait que je continue absolument. Dans ma tête, c'était ça. Et j'étais soutenu hein, par ma mère et par la femme de mon oncle et par mon oncle aussi qui était là.
Alors que s'est-il passé?
On m'a transféré à Conakry. Il a fallu que mon oncle lui se déplace de Conakry dans le village. Il a dit, ouais, il va rester chez moi. Et je suis allé faire la 7e année, c'est l'équivalent du 5e ici, je pense. Et à partir de là, il a reçu une lettre comme quoi il faut que j'entre au village de la part de mon père. Pourquoi? C'est ma mère qui est malade, non? Bah, il faut que tu rentres, ok. Donc, oui, c'est à partir de là, non, ça ne pouvait pas marcher. Ah oui, moi j'ai pris la fuite tout de suite. Je suis parti. Hein. Je devais avoir 15 ans. Moi, ouais, je devais avoir 15 ans comme ça. Ouais.
Et lorsque vous quittez votre village, où allez-vous alors?
Je vais retourner à Conakry, c'est aussi simple que ça. Je vais partir là où j'étais. Hein. Bah, c'est ce que j'ai fait par l'intermédiaire de mon maître de l'école primaire.
Ah oui.
Lui, il nous appréciait hein, notre promotion et bien sûr, il nous frappait beaucoup, ça c'est sûr, quand on était à l'école primaire. Juste parce que tu ne connais pas un COD, un CDI. Et ok, ça ne valait pas la peine, oui, mais ça payait quand même. On a eu l'examen et puis il voulait absolument qu'on continue. Lui, il était déjà au courant et puis... On s'est vu, il m'a dit, ouais, je vais t'embarquer pour Conakry.
Donc, en fait, votre professeur d'école primaire, c'était un petit peu un modèle pour vous?
Absolument. Parce que je me rappelle bien encore que, quand il disait, il faut que vous parliez blanc. Si tu parlais un mot en poulard dans notre langue maternelle, il y avait un symbole, il y avait une corne quand tu mettais au cou. Pour l'enlever, il faut qu'une autre personne parle en polar et puis tu les mets, ainsi de suite. Donc ça nous, on était obligé de parler.
Donc vous quittez votre maison, vous allez voir votre professeur d'école primaire. Et là, comment ça se passe?
À partir de là, oui. Mon oncle a dit, ah oui, moi j'aimerais bien te garder et tout, mais par contre, ton père a dit ça, c'est ça. Parce que mon oncle là, c'est le petit frère direct à ma mère. Il était mécano, il avait une voiture, parfois il partait. Donc c'est parti de là, il a embarqué Mamadou et Mamadou est parti en France. Ouais, voilà.
Il a embarqué Mamadou et Mamadou est parti en France. Mais lorsque votre oncle, le petit frère de votre mère, qui a la chance de posséder une voiture, vous embarque, l'objectif c'est déjà la France ou c'est le Libéria, le Mali, un pays voisin?
Honnêtement, je ne savais pas du tout qui est-ce qui m'attendait et qu'est-ce qu'on faisait. Du coup, ah oui, vu que tu ne veux pas rester au village, je ne peux pas te garder, donc tu viens avec moi, ok? On est parti. Hein.
De manière générale, la migration, elle se fait le reflet de nos sociétés. Nos sociétés étant de plus en plus complexes, par conséquent, les migrations sont de plus en plus complexes. Et donc, les motifs migratoires sont de plus en plus complexes, de plus en plus entremêlés. Et on voit bien chez ces jeunes-là une assez grande pluralité des motifs migratoires. Hein. On a souvent tendance à vouloir les dépeindre de façon un peu homogène, selon voilà, un ou deux types migratoires. Et à cela, on rajoute des jeunes qui, en fait, pour beaucoup d'entre eux, on constate un peu cette rupture par rapport à la trajectoire parentale. Un désir, une volonté de se réaliser individuellement, de s'émanciper, de trouver une situation qui soit acceptable, qui soit digne, qui soit valorisante. Et là, on rentre vraiment dans l'entremêlement des facteurs migratoires.
Noémie Paté, sociologue, autrice de Minorité en errance.
Face à cette grande pluralité des profils, assez rapidement, on a des auteurs comme ça qui cherchent à proposer des profils, hein, des profils typologiques, comme on les appelle en sociaux. Et donc, on peut distinguer plusieurs idéotypes. Par exemple, l'idéal type de l'exilé qui quitte son pays à cause d'un conflit armé, l'idéal type du mandaté ou du migrant solidaire, hein, différentes étiquettes, c'est-à-dire des jeunes qui sont souvent envoyés par leur famille ou par leur communauté pour prendre une partie en tout cas de la charge familiale. Il y a également les jeunes fugueurs qui quittent des situations de maltraitance, de violence ou qui sont extraits par une personne tierce et renvoyés ailleurs pour justement les extraire de cette situation de maltraitance ou de violence. Il y a également les jeunes exploités. Alors ça concerne les jeunes dont la route migratoire se fait par un réseau de traite ou d'exploitation. Donc ils sont envoyés dans le cadre d'une exploitation ou bien des jeunes qui rencontrent un réseau soit sur la route, soit arrivés dans le pays d'accueil.
Les jeunes confiés à l'oncle qui va les maltraiter?
Oui, alors c'est la situation de la kafala par exemple. C'est donc un système d'adoption informel qui tout simplement consiste à confier son enfant à quelqu'un d'autre. Parfois ça peut être au frère aîné qui n'a pas eu de fils par exemple, hein, traditionnellement.
Et le mineur aspirant,
alors moi c'est une catégorie que j'ai beaucoup rencontrée, hein, qui incarne l'aventurier. C'est-à-dire c'est celui qui prend la route un peu poussé par un rêve d'un meilleur avenir et qui cherche à devenir acteur de sa vie, qui adopte la migration parce que la migration est synonyme de prestige social, quelque part. Et donc, la migration va lui permettre d'acquérir un statut d'aîné. Et donc, vous voyez que, en fait, ce sont des jeunes qui sont très souvent réduits à la catégorie dite économique. En réalité, la quête, elle dépasse de loin la quête financière. Et c'est une quête d'une place sociétale qui soit acceptable.
Il y a beaucoup d'efforts de typologisation, de catégorisation qui ont essayé de mettre dans des cases ces jeunes, essayer de comprendre pourquoi ils partent. Et en fait, ce qui, moi, m'a particulièrement frappée lorsque j'ai commencé mes enquêtes au Maroc, c'était de voir que les jeunes que je rencontrais ne correspondaient pas du tout à ces catégories qu'on avait essayé d'établir, ou alors qui correspondaient au contraire à trop de catégories. Et finalement, moi, ce que je vois, c'est que parfois, c'est des choses beaucoup plus simples et à la fois beaucoup plus intenses qui sont à l'œuvre. C'est notamment une volonté de prendre soin.
Cléo Marmier, doctorante en sociologie, spécialiste des migrations juvéniles.
Parfois, et je sais que ça peut paraître contre-intuitif de le penser, quitter ses proches, quitter son pays, c'est une manière de prendre soin des gens qu'on aime et des gens qui comptent pour nous. Et ce que je vois énormément, ce sont des jeunes qui partent dans une forme de résistance à la reproduction sociale, dans une forme de résistance à l'immobilité sociale à laquelle ils se savent condamnés s'ils restaient dans leur pays. Et c'est souvent des jeunes qui m'expliquent à quel point c'était intolérable pour eux de voir leurs parents souffrir, à quel point c'était intolérable pour eux de voir leurs petites sœurs, leurs petits frères souffrir, et à quel point en fait l'Europe se dessinait comme une stratégie de mobilité sociale. Atteindre l'Europe, c'est une manière de se garantir un nouveau statut social qui va permettre de transformer collectivement les destins des gens qu'on aime, et notamment la figure des mères qui est très importante pour ces jeunes. J'ai vraiment été frappée dans mes entretiens de voir à quel point sortir de son pays, atteindre l'Europe, c'était implicitement parfois une manière de venger les mères, de leur rendre justice, de prendre soin d'elles, de leur restituer ce qu'un certain ordre social leur avait confisqué.
Banks, il n'y a pas commencé s'il commençait par Massa. Depuis tout petit, mon cœur devenu noir, j'ai vu beaucoup de choses, mais j'ai fait ça pour maman, pour moi. Je suis quelqu'un pour moi, quoi. Depuis 6 ans, Banks, Shifta Katir, Lakinma Indiha Lalfirasi, ma mère, Oumi, Nimet, Oumi, inti fi Bali, diman nizakane ishma aki, inti kullu shay andi, inti diman kullu shay fi Bali, nizakar diman ne ishma aki, inti kullu shay andi. Mama, tu me manques beaucoup, je vais vivre avec toi, sans toi, je suis pas là, je sens pas bien, je sens mal à l'aise, toujours mama. Oumi, diman nizakar, nogot wa nifekir, diman fi Paris, nogot ma aya. كلهم زطلة نفكر كله معاك نتذكر أمي شفتها كتير وشفتها سامي لكن أخني هقيلة انتي ساميني ما شفت كتير أيام 5 سنين فارغان الزمن خدار شافي لونتان 6 ans دهو دي بيي سا با فاسيل مي جو سوي جين جران كير غرو نوار بوكو دي بابليم ماما مي ديو دي سيرا لا بور توا ان شاء الله ان جور سي دي في في أمي مشتاق أشيفك مشتاق أبوسك ديما نقعد جنبك بلاكي ما ندان نقعد بلاكي ما عندي شيء.
Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a eu cette image du mineur mandaté qui a été extrêmement puissante, qui est d'abord née dans les alcôves scientifiques et qui a ensuite été très récupérée dans les discours professionnels, et on avait l'impression d'avoir ici une clé de lecture.
Donc le mineur mandaté, c'est l'enfant qu'on envoie vers le danger, vers l'Europe, pour gagner de l'argent et l'envoyer à la famille.
Exactement, comme si le mineur partait parce qu'il avait sur les épaules une responsabilité familiale de laquelle il devait être digne. En fait, moi, les jeunes que je rencontrais, majoritairement, étaient partis dans le secret de leurs parents, étaient partis contre la volonté de leurs parents. Une nuit, un matin, lorsque les parents étaient au marché, lorsque les parents étaient partis au travail, ils se sont enfuis. Et donc ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les jeunes considèrent que parfois se soustraire à l'autorité parentale, c'est un acte pour soi, mais c'est aussi un acte pour eux. C'est pour les protéger du chagrin, c'est pour éviter que les parents essayent de les empêcher d'aller vers ce destin-là. Et donc ça me semble vraiment important, quand on a cette idée du mineur mandaté, de le réinscrire au contraire dans des formes de solidarité intergénérationnelle, de solidarité familiale, où en fait, prendre la route, c'est aussi se donner les moyens de transformer le destin social de sa famille. Et c'est des choses qui organisent un grand malentendu en Europe, puisqu'en Europe, avec une vision très européocentrée et adultocentrée de ce qu'est l'enfance ou de ce que devrait être l'enfance, l'enfance est perçue comme devant être innocente, libérée de responsabilité. Ça serait aux parents de s'inquiéter pour les enfants et non pas aux enfants de s'inquiéter pour les parents. Sauf que c'est aussi une vision bourgeoise qui se lie lorsqu'on interprète les choses de cette façon-là, puisque comment penser une enfance libérée des responsabilités et des contraintes quand la majorité de ces jeunes évoluent dans des univers sociaux extrêmement contraignants, extrêmement restrictifs, marqués souvent par une grande pauvreté, une grande précarité, pas toujours, puisqu'il y a des jeunes qui sont issus de familles plutôt privilégiés, qui peuvent quand même considérer l'Europe comme désirable. Mais du coup, la mobilité juvénile, elle vient aussi d'une certaine compréhension enfantine de ce qu'est l'ordre social, de ce qu'est l'ordre inégalitaire entre les Nords et les Suds. C'est une conscience infantile que le Nord est un espace de concentration des privilèges. Et très souvent, lorsqu'on lit des rapports, lorsqu'on lit des articles, on va avoir l'impression que ce sont des jeunes qui sont attirés par tout ce qui brille, ce sont des jeunes qui, voilà, du fait de l'enfance et de l'adolescence, n'auraient pas conscience des réalités du monde. Et c'est au contraire, parce qu'ils ont une conscience extrêmement aiguë des réalités du monde, qu'ils savent qu'une mobilité géographique va s'accompagner très probablement d'une mobilité sociale. Et c'est ce à quoi ils aspirent.
Après le décès de mon père,
Moumini Diallo,
ils sont tous partis, mes frères.
Citoyens guinéens exilés en France.
Donc il y en a un qui est parti à Jakarta et l'autre qui est parti au Nigeria. Et moi aussi, j'ai eu l'envie de partir, même si je suis parti moins plus jeune. Mais en tout cas, eux aussi sont partis avant la majorité. Mais ils ne savaient pas, ils n'étaient pas au courant, parce que je n'ai pas essayé de mettre au courant beaucoup de monde. Dans un premier temps, on a cherché des passeports, mais on ne pouvait pas. Il fallait passer par la famille, vu qu'on était mineur.
Mais vous saviez que vous alliez terminer en Europe ou pas?
Non. Alors ça, non. Ça, on n'avait pas pensé. Après, on voulait aller loin. Parce que là, quand on partait, on avait 15 ans. Donc, du coup, on était des grands, on va dire. Enfin, voilà, on était presque grands.
Donc, l'idée, c'était déjà d'aller au Mali et puis après, vous verriez.
Exactement. Après, on verra au fur et à mesure.
Et quand vous dites on avait envie d'aller loin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous aviez envie de quoi? Vous aviez envie d'aventure, vous aviez envie d'ailleurs, vous aviez envie de vous éloigner de votre pays qui vous a pas très bien traité, y compris votre famille?
Oui, et c'était tout. On avait envie de connaître autre chose et être quelqu'un. Parce qu'on voyait les grands qui étaient dans la trentaine, voilà, qui ont toujours rien. On voyait ça. Donc on avait peur de finir comme ça. Voilà, il y avait des gens qui avaient fait des études, la fac, l'université, mais qui n'avaient rien et qui passaient tout leur temps avec un thé à parler et voilà, à rien faire. Donc nous, voilà, on disait qu'on voulait pas finir comme ça. Donc du coup, en parlant, en discutant avec des proches, comme j'ai dit, avec mes oncles et tout, ils disent, écoute, on ne sait pas ce que tu deviendras. Si tu penses que tu peux aller en aventure et réussir ailleurs, nous, on n'a rien pour t'aider. Donc, c'est toi qui prendras tes propres décisions.
Je pense qu'il y a une dimension politique qui est très occultée lorsqu'on parle des jeunes exilés. Il y a toujours cette dimension de considérer forcément les personnes engagées dans des parcours de mobilité comme des victimes immanentes et passives qu'il faudrait sauver, qu'il faudrait protéger. Et en fait, si on essaye de changer de focale, si on essaye de voir à quel point c'est aussi une forme de non-consentement qui pousse ces jeunes à partir, un non-consentement à la reproduction sociale et à l'immobilité sociale dans laquelle ils se savent condamnés. Et moi, quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est qu'en Europe, on va avoir tendance à considérer les parents comme défaillants, puisqu'ils n'ont pas réussi à retenir leur enfant, ou au contraire, comme presque criminels, pathologiques, puisqu'ils auraient poussé leurs enfants. Et en fait, ce qu'on voit dans les parcours juvéniles, c'est au contraire des présences familiales qui peuvent être extrêmement fortes et importantes pour les jeunes. Et après, il y a évidemment des jeunes qui vont partir, puisqu'ils sont en rupture familiale, ou au contraire pour s'opposer à leur famille. Ça arrive aussi. Mais moi, la majorité des jeunes que j'ai rencontrés, c'était au contraire des mobilités inscrites dans un projet de transformation des destins.
Le sucre.
C'est des beignets salés ou sucrés?
Oui, beignets salés.
Vous mettez quand même un peu de sucre.
Après, attends, je vais mettre la levure. Ça, c'est la levure. La levure.
Est-ce qu'il vous a prévenu quand il est parti, Salissou?
Non, il n'a pas prévenu ça. Il n'a pas prévenu. N'a rien. Ils ne disent pas. Tous les enfants qui bossent là ne disent jamais.
Donc le premier, lorsqu'il s'en va, comment il trouve de l'argent? Il vous a volé de l'argent, n'est-ce pas? Vous lui en avez voulu?
Non, quand il prend, il part. Hein. Tu ne peux pas gronder. J'ai dit seulement, s'il veut aller faire quelque chose, que Dieu bénisse et Dieu lui aide. Que Dieu lui protège. Il part. C'est tout.
Et ça s'est bien passé?
Ça s'est bien passé.
Mais il vous a téléphoné à ce moment-là?
Oui, il a téléphoné que je suis à Libye.
Il vous a encore demandé de l'argent?
Oui, et tu dois payer la connexion pour qu'il passe. On a payé.
Alors, comment ça se passe? Parce que vous êtes vendeuse de beignets, vous ne gagnez pas beaucoup d'argent.
Mais on a gardé, j'ai gardé presque un an que je prenais, je garde, je prends les petits coutons-tines, je garde, je prends parce qu'on ne sait jamais, il pouvait appeler que maman, il faut comme ça. Et quand il a appelé, il a demandé 900 000. J'ai envoyé. La première personne même a frappé, il a mangé l'argent, là, il n'a pas fait pas traverser. Il a dit, maman, laisse, ici, là, tu ne peux pas parler. Je suis resté, elle commençait encore à chercher. Elle dit que continue seulement à faire tes petits jobs pour avoir ton argent de poche. Moi aussi, je me bats ici.
Ramène-le là, ici. Prends ça, tu mets. C'est mon petit-fils.
Comment t'appelles-tu?
Mahfous.
Mahfous.
Je suis le fils de sa fille.
Ah, le fils de votre fille, ok. Tu vas à l'école, toi?
Oui, il va à l'école. Il fait cinquième.
Cinquième? Donc, tu as quel âge?
À mai, j'aurai 13 ans à mai. Mais actuellement, il y a encore 12 ans.
Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?
Plus tard, il peut être un piloteur.
Piloteur? Qu'est-ce que c'est, piloteur?
Ceux qui pilotent l'avion.
Ah, piloteur. Tes cousins sont partis. Il y en a un qui est parti l'année dernière, je crois, oui. En Europe. L'autre, c'est il y a très longtemps. Qu'est-ce que t'en penses?
J'en pense bien. C'est celui qui m'a manqué beaucoup.
Pourquoi?
C'est lui qui m'a amené à l'école, étant petit à la maternelle, jusqu'à faire le CE2. Il m'a laissé.
Il t'a prévenu quand qu'il allait partir ou il est parti sans te dire?
Il m'a seulement dit qu'il voyageait pour 2 semaines, pour Yaoundé. Mais il est parti, il n'est plus revenu. Je me souviens.
Et tu as envie de partir en Europe, toi aussi?
Mais ce n'est pas maintenant. Il va avoir le BPC dans 2 ans. Dans 2 ans.
Dans 2 ans, tu veux partir?
Dans 2 ans, il veut partir.
Ce que les jeunes disent souvent, c'est que la mentalité du Boza, c'est chaque chose en son temps.
Le Boza, les Bozailleurs, Bozaillés, Boza.
Exactement. Boza, c'est le cri de victoire, le cri de joie qui est prononcé lorsqu'on réussit à atteindre enfin l'Europe, lorsqu'on réussit à franchir une frontière. Et donc, ceux qui entreprennent de franchir la frontière peuvent être appelés des Bozailleurs. Mais on a tendance à appeler les jeunes originaires donc d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale des aventuriers, parce qu'ils disent eux-mêmes pratiquer l'aventure, ils disent eux-mêmes être des aventuriers. Et moi, j'ai toujours été un peu mal à l'aise à l'idée d'utiliser ce terme, puisqu'il y a une forme d'héroïsation que je comprends parfaitement que eux utilisent, mais lorsqu'elle est réutilisée par des chercheurs, des journalistes, etc., j'ai l'impression qu'elle occulte aussi à quel point l'aventure n'existe que parce qu'elle intervient dans un régime de mobilité empêchée. C'est parce que les politiques migratoires empêchent des mobilités régulières, alternatives, dignes, sécurisées, que les jeunes vont être obligés d'éprouver leur corps, d'éprouver cette aventure.
Cléo Marmier, doctorante en sociologie, spécialiste des migrations juvéniles.
Finalement, les jeunes ont une idée assez floue de ce que va être l'aventure. Et c'est en partant en aventure, en sortant en aventure, qu'ils vont découvrir ce que c'est que de devenir migrant dans le regard des autres, ce que c'est de devenir un aventurier, ce que c'est de devenir également un MNA, un mineur non accompagné.
Un noir.
et ce que c'est effectivement de devenir noir. Et là, donc, je reprends un terme de Mustapha El-Miri qui me semble extrêmement intéressant, où ces jeunes vont faire l'expérience, de par leur position raciale, de par leur blackness, comme on dit en sociologie, d'une assignation à une infériorité, à une vie moindre. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement structurant dans les parcours migratoires juvéniles de ces jeunes, c'est de découvrir les discriminations raciales dans leur plus grande cruauté. Les expériences en Algérie, au Maroc, à la frontière, sont extrêmement structurantes. Les jeunes avaient déjà conscience, il me semble, des hiérarchies raciales qui organisent l'ordre du monde tel qu'il va. Mais là, ils en font l'expérience dans leur chair. C'est un ciblage policier qui cible explicitement des corps noirs. Donc qu'est-ce que ça fait sur des adolescents, sur des jeunes, de découvrir d'être moins que les autres ?
Moi, j'ai eu la chance parce que...
Junior, 17 ans.
J'ai eu des grands frères qui m'ont aidé.
Citoyen camerounais.
Avant même qu'ils ne décèdent et tout, j'étais déjà bien avancé sur mon parcours migratoire.
C'est-à-dire que ceux qui vous ont protégé, appris la vie dans les rues de Douala au Cameroun, ce sont eux qui vous ont emmené et ce sont eux que vous avez vu mourir.
Oui. Une journée ne peut pas passer sans que je ne pense à eux. Quand l'autre décédait, il me dit à mon petit, j'étais embarqué dans quelque chose vraiment très compliqué. Et d'où je suis là vraiment, je pense que tu vas continuer sans moi. Mais ne pleure pas. D'où tu es déjà là, tu es déjà un homme. Tu es déjà un grand. Si quelqu'un te piétine, il faut aussi le piétiner. Mais il faut que tu saches une chose, tu as de l'avenir. Donc tu vas continuer le voyage. Tu continues, ne regarde pas derrière mon petit. Je compte sur toi. Mais dis ce que moi j'attends de toi, c'est que un de ces jours comme ça, que où je serai, je puisse entendre te voir que tu as réussi. En fait, quand il a parlé ça, et moi je l'avais sur moi, il est tenté de parler, quand il a fini de parler, il a rendu l'âme, j'étais perdu. J'étais perdu. Et après ça, on a écarté le trou au désert. On l'a mis à l'intérieur. Après, j'ai fait mes adieux. Les mots que ce grand frère m'a dit, c'est toujours à moi aujourd'hui. Ça a permis à ce que je puisse me construire. Me construire avec la douleur. La douleur, la douleur, la douleur. Après, j'ai canalisé toutes ces douleurs pour devenir quelqu'un de bien. Je dis, je peux dire merci à ce grand frère, mais je n'ai pas encore réalisé ce qu'il attend de moi. Le parcours du Beaux-Arrières, vraiment, ce n'est pas à souhaiter à quelqu'un. Pas à souhaiter, même en ton pire ennemi. Parce que tous mes frères Beaux-Arrières qui arrivent là, vraiment, c'est une grâce. C'est la grâce. C'est le quotidien du Beaux-Arrières. Le Beaux-Arrières, c'est un cadavre. C'est un mort vivant. Mais déjà, avoir un moral et un mental d'acier, de rester comme ça pour ne pas flipper.
Comment on fait pour avoir un moral d'acier quand on a 15 ans, comme c'était votre cas en 2022 lorsque vous avez quitté le Cameroun?
Déjà dans la rue au Cameroun, les grands frères qui m'ont accueilli déjà m'ont montré que la vie, il faut encaisser. Parce qu'eux ne me considéraient pas comme un enfant de 15 ans. Ils me disaient déjà, comme tu es en train de partir, c'est pas pour revenir. Donc, que pas ton mental. Il faut encaisser. Un peu comme à l'école, quand le maître te fouette, ça fait mal. Mais tu pleures à l'intérieur. Parce que même quand tu vas même vouloir même pleurer, tu vas te faire du mal à toi-même. Donc on garde tout. On emmagasine ça dans nous. Mais, comme l'artiste Lin Wei avait chanté, dans ton sourire, tu souris, mais dans ton sourire, je vois de la tristesse. C'est ce qui se passe. Parfois, je peux me mettre, je ris, je suis content, mais il y a de la tristesse. Where everything happening today, you don't know whether you're coming or going, but you think that you're on your way. Life lined up on the mirror, don't blow it. Whoa, look at me when I'm talking to you. You looking at me, but I'm looking through you. I see the blood in your eyes. I see the love in disguise. I see the pain hidden in your pride. See you're not satisfied, and I don't see nobody else. I see myself. I'm looking at the mirror on the wall. Here we are again. Through my eyes and falling, talking to each other again.
Oui, tu veux parler. Ouais. Je dois lui faire parler aussi.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Ouais. Je me nomme Ismaël Abdoulaye.
Quel âge avez-vous?
J'ai 23 ans. Vous-même, vous voyez ce que nos mamans vivent au pays. C'est pour cela que nous sommes toujours tentés à aller prendre l'eau de la Méditerranée. Parce qu'on traverse les mauvaises conditions et... Nous ne sommes pas fiers de savoir que nos mamans font ça, surtout qu'on n'a pas possibilité. C'est cela que nous sommes toujours tentés d'aller prendre l'eau. Voici ça, que vous voyez le bateau avec l'eau sur vous.
J'ai un t-shirt avec un bateau sur l'eau, effectivement.
Comment ça se fait que
qu'est-ce que...
Il t'a dit non. Parce que lui-même et tous ont les idées de partir, mais passer par l'eau.
Ça leur fait peur, l'eau?
Ça ne fait pas peur. Et si ça faisait peur, c'est qu'ils ne partent pas.
Vous, ça vous fait peur?
Oui, beaucoup même. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas traverser l'eau.
Sont là, c'est trop vieux là.
Mamadou Diallo, citoyen guinéen, étudiant à Châlons-en-Champagne.
Une semaine ou deux semaines ne passent pas sans que je rêve de la mer en train de me noyer. Ou il y a des gens qui te poursuivent, t'arrives pas à courir, quelque chose comme ça.
À quel moment vous quittez votre oncle? Comment ça se passe?
Ben, c'est la nuit, on te dit, ok, il y aura des gens qui vont venir, tu vas aller avec eux, et je vous rejoins après, ok. Tu fais tout ce qu'ils te demandent, d'accord? Il y a des gens qui débarquent, on vous met dans un fourgon, mais on vous met une bonne quantité de personnes, presque, il y a des gens qui s'étouffent, qui vomissent, mais ils roulent, je ne sais pas combien de kilomètres heure, parfois ils freinent, il y a tout le monde qui se rentre dedans, et ça hurle, ça crie, et c'est pas une vie, hein. Parce que tout est fermé, il n'y a même pas de fenêtre. Il y a des bébés qui pleurent. Il y a des adultes qui pleurent. C'est extraordinaire. Et les gars et tout, et puis il y a des gars qui ont des longues machettes, qui ont des cagoules, qui ne parlent même pas bien français. Et quand vous descendez, vous ne vous arrêtez pas. Il y a un gars qui vous poursuit. Allez, rapide, rapide. Et là, on commence à entendre le bruit de la mer, les vagues et tout. Et là, à partir de là, on dit, yalla, je m'appelle bien, yalla, yalla. Et là, c'est parti, hein, direction l'eau. Moi, j'étais juste assis au sol. Il y avait des gens qui sont assis au-dessus de toi, mais les vagues, quand ils viennent, il y a l'eau qui retombe. Et parfois, ça, si le truc commence à prendre de l'eau vient ici, c'est chaud. Hein. Il y a des gens qui parlent autour. Ah, est-ce qu'on va arriver en Espagne? Ah, en Espagne? Ok. Mais sauf que là, tout de suite, ça rigole pas, ça vomit partout. Il y a des bébés, il y a des femmes enceintes, c'est incroyable.
Vous arrivez finalement en Espagne.
Oui, au coucher de soleil. Et quand je dis au coucher de soleil, c'est à quelques pas de la mort. Hein. Ah, bien sûr. C'est comme si on était dans un rêve ou je ne sais pas ce qui se passe ou quelque chose comme ça. Il a fallu attendre le lendemain, oui, pour me rendre compte, oui, là je suis en Europe, il n'y a personne, je ne connais personne. Et les gens qui sont autour de toi ne parlent pas français du tout.
Et là, vous en voulez à votre oncle ?
À l'époque, oui, parce que quand on s'est embarqué tout de suite, j'ai vu qu'il n'était pas là, du tout. Mais sur le coup, tu as tellement peur de ce que tu vois et...
Mais vous avez ressenti un sentiment d'abandon ?
Entre autres, oui. Sur le coup, oui, entre autres. Mais la peur était là et puis je pensais de tout et n'importe quoi.
Quand votre oncle vous dit d'obéir aux gens à qui il vous confie, vous savez que vous allez partir plus loin ?
Honnêtement, non. Non, non. Depuis, non, on ne s'est pas revu. Ouais.
Je ne savais pas, je sais maintenant, je ne demande rien. Juste un instant, si tu veux t'en aller, va-t'en. Et malgré toi, y'a ton absence, t'embrasserais, te sourirais, tu t'accrocheras sur mon cou. Un autre frère à nous qui me restera dans nos cœurs, si serré l'un des nôtres, Seigneur établit ma douleur. On traînait comme des gangsters, on sortait dans les soirées, et sans toi, ça ne sera plus pareil maintenant que tu nous as quittés. Et tous donc tu nous as restés, ne sont que des putains de souvenirs. Les larmes sont sur mon visage, on se réveillera très vite. Et quand ça n'ira pas, ah ouais, je m'en irai sur ta tombe. Je n'arrive même pas à y croire, le jour de ton enterrement. Parfois je repense au suicide, mais je repense à ma mère. Pour oublier mes soucis, je me suis noyé dans quelques verres.
En Tunisie, déjà, c'était déjà entre la vie et la mort parce que les Tunisiens, ils ne nous voulaient pas sur les terres. Ils nous chassaient, ou soit parfois ils prenaient les cailloux pour nous lapider avec. Le dernier grand frère avec qui j'étais a dit on ne peut pas s'arrêter ici, on doit continuer. C'est comme ça qu'il a commencé à chercher, à marcher pour voir comment faire pour arriver en Italie. Donc j'étais là dans le ghetto, bon, lui sortait, il partait causer avec les Arabes et tout et tout. À un moment donné, j'ai dit au grand frère là que vraiment, le style de vie, c'est vraiment, c'est pas le style de vie qui me plaît. Je lui ai demandé si on peut pas rentrer, il me dit que mon petit, marche arrière cassé. Un de ces jours, il m'a amené à la plage. Quand nous sommes arrivés à la plage, il me dit ceci. Tu vois l'eau là? J'ai dit oui. Il me dit que ton destin est de l'autre côté. Je lui ai dit mon destin est de l'autre côté, que je vais seulement voler pour arriver là-bas. Il me dit non, ton destin est de l'autre côté. Une semaine après, c'est levé un matin. Il m'a dit mon petit, viens, on part. C'est comme ça. Je me suis levé, comment on dit, le car qui bat. Nous sommes arrivés, on a marché 2 semaines pour arriver à Sfax. On a marché. Oh. On a marché. Comment on dit, on a porté notre croix. Hein? Comment on dit, n'importe qui doit porter sa croix, on a porté notre croix. On a vraiment bavé. Quand nous sommes arrivés, nous sommes allés voir l'arabe. Il m'avait donné l'argent. Il m'avait dit de mettre sur moi. Nous sommes arrivés maintenant au bord de l'eau, kilomètre 35. Nous sommes arrivés, on a vu l'arabe. Je lui ai remis les 700 dinars. C'est comme ça que le soir, nous sommes allés avec le bateau au bord de la mer. Il a lancé. Après, ils sont partis. Le grand frère me dit, il me dit que mon petit, ici, on ne sait pas si on va vivre. Hein. C'est comme ça que nous sommes montés dans le bateau. Nous sommes partis. Premier jour, ça se passe bien. Deuxième jour, ça se passe bien. Troisième jour, ça se passe bien. Quatrième jour, ça se passe bien. Cinquième jour, aux environs de minuit, l'eau s'égate. l'eau se gâte. Les vagues et tout. Moi, j'étais fixé que sur mon grand, dans le bateau, je vois comme il transpire. Je vois, du coup, j'ai commencé à voir la chair de poule. Je le regarde, je dis, grand, c'est quoi? Il me dit, petit, ça va. Grand, c'est quoi? Il me dit, petit, ça va. Et après, en une minute, on a fait naufrage. Moi, je vois juste comment on tire mon tricot derrière, comme ça, on me tire par derrière pour aller avec moi. Moi, je vois mon grand là qui est en train de se noyer, qui est en train de se battre avec la, qui est en train de se battre pour survivre. On a été me sauver. Moi, je vois comme il est en train de mourir. Quand je suis monté directement au sommeil, j'ai dormi. Quand je suis réveillé, je regarde partout. Je regarde partout. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Je n'ai même pas parlé à quelqu'un. Je suis resté tranquille. J'ai compris que bah, lui-même aussi, il est parti. Il est parti. Je me suis retrouvé maintenant seul en Italie. Mon destin était maintenant comme mes mains. C'est ça. Bon, aujourd'hui, je suis là. Je suis là seul. Je pense à tous ces moments et ça me fortifie, ça me donne la force. Quand je vois par quoi je suis passé et tout, je me dis, comme on dit souvent, l'espoir fait vivre. J'ai un peu l'espoir que ça peut changer.
On mélange comme ça. Après, on va mettre l'huile. On tourne, on malaxe pour que ça donne le goût. Pour que les gens mangent.
Lorsque vous apprenez que Mamadou ou Soulé entre en Europe, c'est le quartier qui est au courant avant vous.
Oui, c'est le quartier qui est au courant parce que c'est là-bas, le vrai Bouza, direction de Bouza, c'est en bas là-bas. On avait déjà publié. Nous, on était ici, on ne connaissait pas. J'ai fini de faire le bien, nettoyer, pop tout. En passant pour aller au marché, c'est là où il me dit que tu as compris que les enfants ont marqué.
On dit marqué comme un but.
Il dit qu'il est entré.
Et alors?
J'étais content, elle sautait, courir, aller à la maison, on l'a dit. Ils ont crié aussi. Ils ont dit, ah, c'est bien. Tout le monde disait seulement, ouais, ta souffrance va finir. Ouais, tu vas laisser le baigner si un jour. Ouais, c'est bien ça. Et depuis ce temps-là, ça va, mon cœur a baissé. Parce que je pensais, je ne dormais pas bien. Je pensais à Elou là. La mère là qui me faisait et surtout l'année là, les enfants d'un quartier là en commando là, on avait appris qu'il y avait le bateau à couler avec les enfants.
Est-ce que vous pensez que vous allez revoir vos enfants un jour?
Inch'Allah, si je ne meurs pas, je vais les voir. Ils vont venir. C'est ça que je souhaite. Raphaël, asseyez-vous, je vais balayer.
C'était Jeunesse africaine en exil, épisode 1, quitter les siens, conjurer le destin. Un documentaire de Raphaël Kraft réalisé par David Jacuboviez. Avec les élèves de l'école communale d'Ebodje au Cameroun, Junior, Adidja, Moumini Diallo, Mamadou Diallo, Noémie Paté, Cléo Marmier, Mahfous, Ismaël Abdoulaye et les interprétations originales de Mahamat et Gaston. Prise de son, mixage Manon Houssin, chargée de programme Marivonne Bolivier et Anaï Morales, coordination Johanna Bedeau, page web sur le site de France Culture et le podcast sur l'appli Radio France. À quoi tu penses?
Je ne pense à rien. Je regarde seulement le paysage.
Est-ce que vous pouvez passer là?